I'd like to have a democracy.
Élections, le magazine des élections municipales de Radio PFM. Aujourd'hui, pour ce 8e numéro, on est avec Nico et Laura. Salut.
Salut. Salut.
Au programme, notre dossier du jour consacré au mouvement associatif. On écoutera un sujet réalisé par Lucien de Micro Rebelle. Guy nous a préparé une nouvelle chronique aux urnes citoyens. Il évoquera cette fois-ci les bons publics. Georges Brassens, si tu nous écoutes. Et avant cela, Laura, un petit point info pratique. Dans un précédent magazine, on vous avait donné des infos sur qui peut voter. Et aujourd'hui, on voit ensemble qui peut être candidat et comment se passe le dépôt des candidatures.
Alors pour commencer, la date limite pour déposer les listes de candidats pour le premier tour est fixée au 26 février à 18h. Pour le second tour, les listes doivent être déposées avant le 17 mars à 18h également. Pour être éligible en qualité de conseiller municipal, 5 conditions cumulatives doivent être réunies. Tout d'abord, être français ou ressortissant de l'Union européenne. Depuis 2001, les ressortissants européens peuvent être élus à un conseil municipal, mais ne peuvent être maire ou adjoint, et ne participent ni à la désignation des électeurs sénatoriaux, ni à l'élection des sénateurs. Il faut également avoir 18 ans révolus le jour du scrutin, avoir satisfait aux obligations militaires, être électeur de la commune, ou être inscrit au rôle des contributions directes de la commune, ou justifier devoir l'être au 1er janvier 2026. C'est ce qu'on appelle les candidats extra-communaux. En gros, un candidat peut se présenter s'il justifie d'un lien fiscal avec la commune, même s'il vote dans une autre commune. Par exemple, le candidat peut justifier d'une taxe d'habitation sur résidence secondaire, d'une taxe foncière, d'une cotisation foncière des entreprises. Dernière condition, être candidat dans une seule circonscription électorale. À défaut, le candidat n'est pas éligible aux élections municipales. Le code électoral prévoit des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité propres au scrutin municipal, en plus des critères, disons, habituels. Par exemple, les individus privés du droit électoral, les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle. Et ces cas sont plutôt nombreux et nécessiteraient presque une rubrique. En voici donc quelques exemples non exhaustifs. Les agents salariés communaux ne peuvent pas être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Est inéligible également le maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou l'adjoint au maire d'une commune de plus de 100 000 habitants qui n'a pas déposé la déclaration de sa situation patrimoniale et de ses intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les ressortissants des États membres de l'Union européenne autres que la France déchus du droit d'éligibilité dans leur État d'origine.
Donc du coup, Laura, certaines personnes peuvent être inéligibles pour des raisons liées aux fonctions qu'elles exercent.
Eh oui, encore une fois, voici une liste non exhaustive, mais la liste officielle de ces fonctions est fixée par le Code électoral. Par exemple, le contrôleur général des lieux de privation de liberté et le défenseur des droits sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions. Ensuite, ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois, les magistrats des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux dans les autres corps militaires, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaires et les entrepreneurs de services municipaux, les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture, en tant que chargé d'une circonscription territoriale de voirie, les ingénieurs et les chefs de section des travaux publics de l'État. Il existe aussi des incompatibilités résultant d'un lien de parenté. Attention, elles ne s'appliquent que dans les communes de plus de 500 habitants. Le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à 2. Dans les communes où les conseillers municipaux sont élus par secteur, les personnes d'une même famille peuvent siéger au sein du conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents. Les conjoints, eux, ne sont pas concernés.
Laura, du coup, merci pour toutes ces explications et on voit avec toi les modalités de dépôt de candidature.
La loi rend obligatoire, lors du dépôt des candidatures aux élections municipales, de fournir une mention manuscrite de chaque candidat marquant son engagement. Comme ça, pas de candidats enrôlés malgré eux sur des listes. Pour les élections municipales, les listes de candidats doivent être composées d'autant de femmes que d'hommes, avec une alternance obligatoire femmes-hommes ou inversement. Ça, on en avait déjà parlé. Les listes doivent être complètes, autant de candidats que de sièges à pourvoir dans les communes de 1000 habitants et plus. En revanche, dans les communes de moins de 1000 habitants, les listes sont considérées complètes dès lors qu'elles comptent jusqu'à 2 candidats de moins que l'effectif théorique du conseil municipal. Si aucune candidature n'a été déposée ou si aucune liste n'est recevable, notamment en cas de non-respect de la parité ou d'un nombre insuffisant de noms sur la liste, et ce, quelle que soit la taille de la commune, l'élection ne peut se tenir. Une délégation spéciale est nommée par le préfet du département. Cette délégation doit être instituée dans un délai de 8 jours à compter de la constatation de l'impossibilité de constituer un conseil municipal dans la commune. Elle a la charge d'administrer celle-ci le temps d'organiser de nouvelles élections municipales. De fait, ses pouvoirs sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. Et de nouvelles élections doivent alors être organisées dans un délai de 3 mois. Une commission de contrôle des listes électorales doit se réunir d'ailleurs entre le 19 et le 22 février 2026.
Merci Laura pour toutes ces infos, mais tu vas nous donner 2 infos en plus.
Si vous ne le saviez pas, un salarié a le droit à 20 jours ouvrables d'absence autorisée pour participer à l'élection municipale. L'électeur, quant à lui, peut avoir accès à la liste électorale complète s'il s'engage à ne pas en faire un usage commercial. Quand je dis complète, c'est y compris des informations couvertes par le secret de la vie privée. En revanche, les pièces présentées à l'appui d'une demande d'inscription sur la liste électorale ne sont pas communicables aux tiers.
Eh bien, merci Laura pour toutes ces infos. Et on passe maintenant à la chronique aux urnes citoyens avec Guy, alias Guy Le Polarski.
La France vieillit. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre des décès dans notre pays dépasse celui des naissances. C'est ce que révèle le bilan démographique pour 2025 produit par l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, institut qui collecte, produit, analyse et diffuse des informations sur l'économie et la société française. Jamais, depuis 1942, le nombre de naissances n'a été aussi bas, constate l'INSEE, qui alerte sur le vieillissement de la population, une population qui devrait voir les plus de 65 ans bientôt plus nombreux que les moins de 20 ans. Avec une natalité en chute depuis une quinzaine d'années, le nombre moyen d'enfants par femme à 56 est à ce jour le plus faible depuis 1918 et se situe à un niveau nettement inférieur au seuil de renouvellement de la population. La France ne fait plus exception et connaît donc un déficit démographique partagé par les pays les plus économiquement développés. L'INSEE rappelle d'ailleurs qu'actuellement en France, l'immigration reste le principal moteur de la croissance démographique. Un constat que connaît aussi l'Espagne qui vient de décider d'une régularisation massive de sans-papiers. 1,5 million de personnes sont concernées, une décision à contre-courant des politiques de restriction migratoire en vogue chez nous, comme aux États-Unis et dans une grande partie de l'Europe. Mais ce n'est pas de l'immigration dont il est question ici aujourd'hui, ce sont les élections municipales qui nous intéressent. Et comme vous l'aurez compris, vu cette longue introduction, il sera aujourd'hui question d'élections municipales et de vieillissement de la population. Comment les seniors influencent la campagne électorale était ainsi titré il y a quelques jours un article du journal Le Monde. Vous remarquerez que les mots « vieille » et « vieux » sont plutôt bannis lorsqu'il est question des plus de 60 ans. « Senior » sonne effectivement mieux. Mais il faut se faire une raison et avoir recours à un vocabulaire plus explicite. Nous parlerons donc des électrices et électeurs les plus âgés. Les plus de 60 ans donc, qui sont de plus en plus nombreux et qui sont aussi ceux qui votent le plus. Pas besoin d'être un politiste émérite pour comprendre que cette population joue donc un rôle important dans le résultat aux élections. Et pas besoin d'être un élu chevronné pour comprendre que pour se faire élire ou réélire, il vaut mieux ne pas négliger les plus âgés. C'est d'autant plus vrai aux élections locales avec des seniors très pragmatiques qui sont en général moins sensibles aux étiquettes politiques qu'à la réalité des pratiques et des réalisations municipales. Leur priorité porte sur les questions de sécurité et d'adaptation au vieillissement, santé, transport, etc. Des thématiques clés pour les élus locaux. Ce que résume très bien Christophe Bouillon, cité dans l'article du journal Le Monde. Christophe Bouillon, maire d'hiver gauche de Barentin-en-Seine et président en Seine-Maritime et président de l'Association des petites villes de France. Je cite « Leurs attentes de base, des seniors donc, leurs attentes de base, c'est des rues éclairées, un médecin et des transports. » Et, ajoute-t-il, les demandes sont aussi en forte croissance pour des bancs et des toilettes publiques. Nous y reviendrons. La population vieillit donc, mais quid des élus? Apparemment, l'élection en 2017 d'un président de la République qui n'avait alors pas encore 40 ans n'a pas eu d'influence au niveau municipal. Selon Florent Rossi, président de l'Association des jeunes élus de France, il y a 20 ans, il y avait 12% d'élus locaux de moins de 35 ans et ils n'en sont plus que 4,7% aujourd'hui. Bref, les élus prennent aussi un coup de vieux. À Arras, s'il est devenu maire plutôt jeune, c'était en 2011 et Frédéric Le Turc avait alors 43 ans. En cas de réélection en mars prochain, il ne sera plus tout jeune et deviendrait même senior en cours de mandat. Un des leurs à la tête de la ville en perspective convaincra-t-il les seniors arageois? Nous verrons cela au mois de mars prochain. Toujours est-il que Frédéric Le Turc, qui a bien conscience du poids du vote des plus âgés, celles et ceux qui participent aux différents repas des aînés vous le confirmeront, toujours est-il que Frédéric Le Turc donc, a engagé la ville d'Arras dans un processus de labellisation, je cite, « ville amie des aînés ». C'est une reconnaissance de l'engagement municipal sur ce sujet, mais il existe une belle marge de progression pour passer du niveau actuel d'Arras, le bronze, au niveau supérieur, argent, or et platine. Alors je vous avoue que je ne maîtrise pas en détail les critères qui déterminent le niveau de labellisation ville amie des aînés, mais je me dis que les toilettes publiques et les bancs publics en font peut-être partie. Alors dans le centre d'Arras, pour les toilettes publiques, hormis celle de la place de la Vacquerie, il faudra plutôt compter sur un passage dans un café ou un bar pour assouvir un besoin pressant au prix d'un café ou d'une bière. Ce qui pourrait d'ailleurs vous entraîner dans une spirale infernale, toilette, consommation, etc., etc. Concernant les bancs publics, si dans le quartier de Radio PFM, le quartier Mollans, nous ne sommes pas à plaindre, ce n'est pas le cas de l'hypercentre d'Arras au niveau des places, où l'on ne trouve en effet qu'un seul banc sur la place des Héros, un banc riquiqui et sans dossier, accompagné d'une chaise publique. Là aussi, pour se poser et admirer le beffroi, il faut plutôt passer par la case terrasse de café. Alors avis aux candidats, à Arras et ailleurs, des bancs publics pour toutes et tous et partout, voilà un programme à méditer, dans la mesure où ces bancs publics, c'est du billard à trois bandes. Ça plaît aux vieux, ça plaît aux jeunes, notamment quand ils sont amoureux, et du coup, ça peut être un moyen de relancer la natalité.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Merci Guy Le Polarski, on te retrouve la semaine prochaine en chair et en os en studio. Dernière partie de notre magazine Élection, Nico. À l'approche des élections municipales, les associations tentent de se mobiliser.
Oui, par l'intermédiaire du mouvement associatif, le mouvement associatif des Hauts-de-France fédère une grande partie des plus de 100 000 associations actives en région. Donc c'est un peu le porte-voix des assos. Et donc ils ont travaillé sur un plaidoyer associatif pour ces élections municipales de 2026. Un peu à l'image de la démarche Causons Culture dont on a déjà parlé sur PFM avec le collectif régional Art et Culture. Donc une manière d'interpeller les candidats. On va écouter un entretien avec Ondine Chorin, chargée de mission au mouvement associatif Hauts-de-France. Elle est au micro de Lucien de Micro Rebelle, radio associative lensoise. C'était au Toit commun à l'occasion justement d'un atelier plaidoyer.
L'objectif de cet atelier de plaidoyer, c'est d'outiller les associations locales pour qu'elles puissent se sentir en capacité d'aller interpeller les candidats et candidates aux élections municipales pour mettre en avant leur réalité locale, ce qu'elles observent sur les territoires, ce qu'elles observent auprès des publics qu'elles accompagnent, avec qui elles travaillent, et qu'elles se sentent légitimes d'affirmer leur rôle politique, leur rôle d'interpellation, de proposition auprès de ces candidats et candidates pour venir nourrir les programmes politiques et la vie quotidienne des habitants et habitantes de demain. Donc dans le cadre de cet atelier, on va avoir un premier temps autour du rôle politique des associations, autour du fonctionnement des élections municipales, également autour de la méthodologie du plaidoyer, comment est-ce qu'on fait pour aller interpeller son candidat, sa candidate, justement quelles sont les actions du plaidoyer possibles. Et enfin, on terminera sur les ressources que le mouvement associatif met à disposition à l'occasion de ces élections. Notamment un plaidoyer autour de 12 propositions pour une meilleure vie associative locale, plus respectueuse des enjeux des associations. Également un kit association de l'élu, c'est une mallette d'outils clés en main pour les futurs élus ou les élus actuels pour mener au mieux leur politique de vie associative, et également des outils pour les associations, des fiches pratiques sur comment réaliser une conférence de presse, rédiger un communiqué, comment aller parler de mon rôle politique auprès de mes partenaires publics, vraiment des outils très concrets pour que tout un chacun se sente à l'aise d'aller rencontrer ses futurs maires.
Alors on a beaucoup parlé des associations. Les associations se sont mobilisées encore très récemment, hein, avec le mouvement « Ça ne tient plus » notamment. Quel lien faire avec les municipales ?
Le lien, il est très fort parce que la situation qui a été dénoncée dans « Ça ne tient plus » par les associations, elle est aussi rencontrée par les collectivités locales. Et c'est pour ça que notre plaidoyer s'appelle « Refaire commune ». L'objectif, c'est de se saisir de cette fenêtre d'opportunité des élections municipales pour réinventer une relation de coopération entre les associations et les municipalités, car les unes ont besoin des autres et réciproquement. Les associations, elles animent le territoire local et les mairies, elles ont besoin de cette attractivité, de ce développement de leur territoire. Et donc l'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble, vu que les compétences des uns renforcent celles des autres. Donc dans la vie associative, on est sur les mêmes champs d'activité que la commune, la jeunesse, la culture, le sport, le développement local, l'environnement, la protection des plus précaires, l'accompagnement des personnes en difficulté en général. Donc on a tout intérêt à travailler ensemble dans les meilleures conditions possibles, et on sait bien que les collectivités sont en difficulté et on leur demande de ne pas faire le choix de la vie associative, mais de réinventer ensemble des meilleures coopérations et un meilleur soutien à la vie associative, notamment par la mise à disposition d'outils, de locaux, d'événements, d'espaces de communication, par le soutien à la formation des bénévoles, par la simplification administrative et aussi par la promotion de la subvention et pas la promotion du marché public qui dénature complètement les projets associatifs.
Alors justement, sans être exhaustif, est-ce que tu peux évoquer quelques-unes des 12 propositions, enfin celles qui te paraissent significatives ?
Ces 12 propositions, elles sont autour de 4 axes. Le premier, je l'ai cité, c'est l'engagement bénévole. Donc favoriser la formation des bénévoles, mettre en place des formations au sein de la mairie ou mettre à disposition les outils, les informations autour de cette formation. Simplifier la vie administrative des bénévoles avec un guichet unique ou des interlocuteurs formés au sein des collectivités. J'ai parlé de la subvention également, qui est un vrai moyen de soutenir les projets associatifs. La subvention pluriannuelle, donc, qui permet une visibilité pour les associations sur quelques années et des actions plus pérennes. On a aussi la coopération avec la protection des libertés associatives par les collectivités et la signature potentielle d'une charte des engagements réciproques, donc des engagements communs entre les associations et les mairies pour faire coopération demain. La mise en place de conseils locaux de la vie associative aussi, par exemple, pour définir la politique locale de vie associative à la hauteur des besoins des associations du territoire. Et voilà, la majorité des axes, l'accompagnement est aussi un axe fort. Les collectivités peuvent être labellisées guides asso, qui sont des points d'information à la vie associative. Et on encourage les municipalités à endosser ce rôle et à se rapprocher du dispositif.
Peut-être sans vivre la réunion en amont, comment ça va se passer ?
Donc on va être ensemble pendant 2 heures, on va avoir un vrai temps d'introduction sur le fonctionnement des élections municipales, on va vous donner aussi en tant qu'association de l'argumentaire sur le rôle politique des associations. On va décliner ensemble les activités du plaidoyer, l'expertise, le lobbying, les relations avec les médias. Et enfin, on va terminer sur la présentation des outils, des 12 propositions du mouvement associatif pour que vous vous sentiez association en mesure d'aller porter ces propositions.
Une dernière question, le mouvement associatif.
Alors le mouvement associatif, c'est un réseau associatif, c'est-à-dire que les associations, elles se fédèrent souvent au sein de thématiques, la fédération d'associations sportives, la fédération d'associations culturelles, la fédération des associations du médico-social, et toutes ces fédérations, elles adhèrent au mouvement associatif pour faire commun autour du statut d'association, loi 1901. Et voilà, on se retrouve pour essayer d'avoir la meilleure politique vie associative possible, peu importe les enjeux sectoriels des uns et des autres, et améliorer l'engagement bénévole, le financement des associations, l'emploi ou encore les libertés associatives.
Ondine Chorin, chargée de mission plaidoyer au mouvement associatif Hauts-de-France, elle était au micro de Lucien de Micro Rebelle. C'était le 27 janvier dernier au Toit commun à Lens. D'autres ateliers plaidoyer associatif et élections municipales 2026 sont organisés dans la région, par exemple ce week-end à Beauvais à Creil. Vendredi 13 février, ça sera à Saint-Omer dans les locaux de l'association Galilée.
Il n'y a rien à Arras ?
Ben non, alors peut-être que c'est parce que tout va bien hein, pour les assos arageoises, ou peut-être est-ce une question d'organisation. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'espace de dialogue entre les différentes associations à Arras. Il y a certes l'office culturel hein, pour les assos culturels, mais la reprise en main récente par la mairie de l'office a sans doute laissé des traces.
Alors, il faudrait peut-être créer cet espace de dialogue.
C'est justement l'une des propositions du plaidoyer associatif, refaire commune. Je cite, créer des espaces de dialogue avec les associations, par exemple en mettant en place un conseil local de la vie associative.
Voilà pour notre dossier de la semaine. C'est la fin de ce magazine Élections, 8e numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau dossier et suivre l'actualité de la campagne et une nouvelle chronique aux urnes citoyennes et citoyens. Salut !
Salut ! Salut.